Voici le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Abstention, la constante européenne. Nous verrons que c'est l'une des caractéristiques de ces élections au fil des ans et sur l'ensemble du continent, avec quelques exceptions. Appel à témoins pour trouver le principal suspect de l'explosion d'un colis piégé hier à Lyon qui a fait 13 blessés légers. Le parquet antiterroriste est chargé de l'enquête. Trottinette, le plan de Bordeaux pour faire place nette. Dans ce journal encore, le mondial féminin de football, portrait de la patronne des Bleus, Corinne Diacre, et puis nous irons à Cannes avec la masterclass de Mister Rambo, France Inter y était.
Les invités de la matinale à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
Sarah Briand pour un livre sur Romy Schneider.
Et puis à partir de 8h20, notre invité, l'auteur, compositeur, interprète Renan Luce pour son nouvel album qui est sorti hier.
France Inter.
Elle a été toujours l'une des grandes gagnantes des élections européennes.
L'abstention, un seul scrutin européen a attiré une nette majorité d'électeurs. Le tout premier, en 1979, plus de 60% des électeurs ont voté. Depuis, au fil des votes, l'abstention n'a cessé d'augmenter. En France, lors des dernières européennes, en 2014, elle a très légèrement reculé. Elle était tout de même à 57,5. Le phénomène est largement répandu parmi les 28, même si l'on observe des nuances au rétisons, selon que l'on soit européen de l'Est ou de l'Ouest, ou que le vote soit obligatoire ou non.
Ce sont les Belges qui se mobilisent le plus. 90% des électeurs se sont déplacés jusqu'aux urnes il y a 5 ans. La tradition du vote est très ancrée chez nos voisins belges. Le vote y est obligatoire, sous peine d'amende, mais l'obligation de voter se révèle moins efficace dans des pays comme la Grèce, la Bulgarie ou Chypre, car les sanctions sont quasi inexistantes. 60% des Grecs avaient voté la dernière fois, 36% des Bulgares seulement. Ces différences, elles révèlent des disparités géographiques. Les pays de l'Ouest présents depuis plus longtemps dans l'UE ont tendance à voter plus que les pays de l'Est intégrés plus récemment. La France se situe pile dans la moyenne. 4 Français sur 10 ont voté aux dernières européennes, chiffre assez stable ces dernières décennies. Et la palme de l'abstention revient à la Slovaquie. Seulement 13% de participation, moins de 2 électeurs sur 10 se sont déplacés pour élire leurs précédents eurodéputés.
Alors ce samedi, les électeurs d'outre-mer se rendent aux urnes. En métropole, ouverture des bureaux de vote demain à 8h, fermeture entre 18 et 20 heures selon les communes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un scrutin à un seul tour. La France envoie 79 eurodéputés sur les 751 qui siègent à Strasbourg. Je rappelle aussi leur rôle. Ils votent les textes préparés par la Commission de Bruxelles sous l'impulsion des chefs d'État et de gouvernement. Soirée spéciale élection européenne, ce sera demain à partir de 19h sur France Inter.
Avec Claire Servageant, effectivement. À Lyon, Bernadette, la sécurité est renforcée autour des bureaux de vote après l'explosion hier.
Ben oui, c'est effectivement la consigne donnée au préfet. Sécurité renforcée dans tous les lieux publics qui accueillent du public après cette explosion d'un colis piégé, non seulement à Lyon, mais dans toutes les régions de France. Un appel à témoins a été lancé hier soir pour retrouver celui qui fait figure de principal suspect. Un homme filmé par les caméras de surveillance, portant casquette, lunettes noires, un bermuda, arrivant sur les lieux, un vélo à la main. Quelques secondes après, devant une boulangerie, l'explosion. On est au cœur de Lyon, dans une rue très commerçante. 13 personnes sont blessées, touchées par des éclats de verre des vitrines ou par les vis et les piles qui se trouvaient dans le sac qui a explosé. Aucune personne blessée gravement, mais le choc a été violent et il se ressentait des heures plus tard dans le quartier. Sarah Tucherer.
À quelques centaines de mètres du lieu de l'explosion, la place Carnot, ses bars avec terrasse, tous ouverts. Attablée avec ses amis, Madeleine, touriste belge, se repasse le film de la journée.
On revenait de la place Bellecour et on n'a pas pu entrer dans la rue Victor Hugo parce que c'était barré. On se demandait pourquoi. Et rentré à l'hôtel, on a vu l'information à la télé. On s'est dit qu'on avait eu de la chance parce qu'on revenait toujours par la rue Victor Hugo. Et cette fois, on était retardé. On était resté à la place Bellecour.
Pour Victor, caviste à une rue de là, l'atmosphère n'a rien de normal.
Pour un vendredi soir, c'est calme, je trouve. Normalement, ça devrait être blindé. Là, il devrait être surbooké. C'est calme, très calme.
Derrière le cordon de sécurité, on aperçoit l'enseigne de la brioche dorée. Des enquêteurs de la police scientifique en combinaison blanche s'activent à la lueur d'un projecteur. Jean passe par là, il rentre chez lui après une soirée chez des amis. L'explosion était au cœur des discussions.
C'est complètement inattendu. C'est la première fois que la ville de Lyon est concernée. Bon, on ne sait pas encore ce qu'il en est exactement, donc on ne fera pas plus de commentaires, mais ça fait réfléchir, quelles que soient les causes et les motivations de l'auteur, de ce fait.
Inquiétude et incompréhension, ces deux sentiments étaient largement partagés hier soir à Lyon.
Aucune revendication après cette explosion. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie de l'enquête. Consigne de sécurité renforcée, je le disais, alors que les Gilets jaunes appellent de leur côté à manifester pour le 28e samedi d'affilée. Plusieurs rassemblements à Paris, un seul déclaré, appelle aussi à se rassembler à Toulouse, Lille, Bordeaux ou encore Montpellier.
Longtemps destinée aux enfants, elle est en train de devenir le fléau des centres-villes.
La trottinette, vous l'avez deviné, en quelques semaines à Paris, dans les grandes villes, elle s'est multipliée parce qu'en libre-service avec ce que ça suppose d'incivilité, jetée en travers du trottoir une fois qu'elle a servi, filant au mépris de tout code de la route, certaines vont jusqu'à 60 km/h. Trottinette, il est temps de faire place nette. Bordeaux Métropole adopte une charte de bonne conduite qui concerne aussi les vélos et autres engins à deux roues. Marie-Jeanne Delepol.
Première obligation, payer une redevance aux communes dans lesquelles ils souhaitent s'installer. Par exemple, 30 euros par trottinette par an. Ensuite, le nombre d'engins en libre service sera limité. Chaque opérateur pourra déployer au maximum 600 vélos, 600 vélos électriques, 200 scooters et 100 trottinettes électriques. Et puis dernière obligation et pas des moindres, on ne pourra pas garer sa trottinette électrique ou son vélo n'importe où. Il y aura des zones bien précises, délimitées au sol, 200 en tout dans la métropole. Les opérateurs et les usagers qui ne respectent pas cette charte de bonne conduite pourront être sanctionnés. Alors on ne sait pas encore combien d'opérateurs vont s'installer, ils rencontrent les élus lundi prochain. Et pour l'instant, il ne reste que quelques centaines de trottinettes en libre service sur les trottoirs bordelais. L'ancien maire Alain Juppé les avait chassés en octobre en attendant justement de trouver un accord pour mieux les encadrer.
En sport, Caen rate le point qui pouvait le sauver de la descente en Ligue 2. Un match nul aurait suffi contre Bordeaux, mais c'est sur une défaite 1-0 que le club quitte la Ligue 1. Dijon affrontera Lens jeudi pour le maintien.
Et les Bleus ES du football féminin ont les yeux tournés vers le Mondial.
L'équipe de France féminine de football entame en effet la dernière ligne droite avant le début de la Coupe du Monde le 7 juin. Encore deux matchs de préparation, dont un cet après-midi contre la Thaïlande. Elle s'entraîne à Clairefontaine sous la baguette, que dis-je, la férule de la sélectionneuse Corinne Diacre. Guillaume Batin.
Ancienne capitaine de l'équipe de France, comme Didier Deschamps, Corinne Diacre est une pionnière. C'est la première femme à avoir entraîné une équipe d'hommes à Clermont Foot entre 2014 et 2017.
J'ai pas d'hésitation.
Sa méthode est claire.
Je peux vous dire qu'elles ont souffert. On est vraiment toutes tournées vers le travail.
Le travail, l'effort, voilà les piliers de la méthode Diacre. L'attaquante des Girondins de Bordeaux, Viviane Asseilly.
Elle apporte beaucoup d'exigences dans tous les détails du foot et ça me fait avancer et ça fait avancer aussi le groupe, donc tant mieux.
Corinne Diacre sait aussi être proche de ses joueuses, la défenseure de Montpellier, Marion Torrente.
Elle aime rigoler et elle nous fait aussi rire, tout le staff de toute façon. Tout le monde vit bien, donc voilà.
À quelques jours du début de la Coupe du Monde, Noël Legretz, le président de la Fédération Française de Football, qui est allé la chercher en 2017, a toute confiance en elle.
Je voulais depuis longtemps, le président Michy n'a pas souhaité il y a 4 ans, sinon elle aurait été depuis un moment en place. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle elle convient parfaitement, elle est heureuse à ce poste et petit à petit, elle prend non seulement ses marques, mais elle est performante.
Depuis son arrivée à la tête des Bleus, Corinne Diacre a dirigé 21 matchs, tous amicaux. Son bilan est de 3 défaites, 3 nuls pour 15 victoires.
À Cannes, hier soir, la masterclass de Mr. Rambo, Sylvester Stallone, venu donc au festival pour présenter les premières images du dernier Rambo, Rambo 5 déjà, oui, qui sortira à l'automne. Alors il a foulé le tapis rouge hier soir et dans l'après-midi, il a conquis toute la salle en parlant de sa carrière et de son travail. Toute la salle, dont Delphine Evenou pour France Inter.
Sylvester Stallone !
Applaudimètre versus sourire de Stallone, difficile de dire qui est le plus heureux d'être là. Santiago, chemise de bûcheron, Sly s'amuse de son image.
Yo.
Intarissable sur les personnages de Rocky et Rambo qui l'ont construit et porté, généreux en autodérision et conscient de ses mauvais films.
Bien sûr, j'ai plein de regrets là-dessus. Je suis coincé avec ça. Je regarde et je me dis, oh là là. Ma fille me dit, pourquoi tu as tourné ces trucs nazes? Et je lui réponds, comment tu crois que je te paye des études? Tais-toi.
Je suis absolument fan de lui avec les Rocky, les Rambo, tout ça. Et donc ouais, là c'était un rêve un peu d'assister à ça et je stressais de pas pouvoir rentrer.
Dans la salle, 1200 personnes, toutes générations, assistent à un show calibré mais sincère. Stallone, grand enfant de 72 ans, évoque la vieillesse et la ténacité avec des mots simples.
Plutôt que de donner des conseils de cinématographie, il parle de sa vie et de ce qu'il observe.
Une invitation cannoise 100% gagnante pour Kathleen, jeune réalisatrice new-yorkaise.
Je pense que ça évite que le festival ne se prenne trop au sérieux, ne devienne prétentieux. C'est bien de l'ouvrir à tout le monde, à d'autres perspectives. C'est vraiment une bonne chose.
La perspective de Stallone, c'est Rambo 5 à l'automne. Encore, diront les mauvaises langues, je suis heureux où je suis, conclut l'acteur.
Et ne manquez pas Le Masque et la Plume exceptionnel ce soir à partir de 19h20, puisque le palmarès du Festival de Cannes sera donné ce soir. En direct donc, Le Masque et la Plume avec Jérôme Garcin et Eva Béton.
Et je signale à propos de cinéma aussi ce soir sur France Inter, après cette soirée spéciale, entre 21h et 22h, Laure Adler, entretien exceptionnel avec Alain Delon. C'était le journal de Bernadette Chamonaz.